Supposons qu'un patron embauche à l'essai quelqu'un qui est censé assumer une haute responsabilité. Mais la première semaine, il lui donne à faire des rangements, des photocopies, du nettoyage et l'envoie faire des courses au supermarché du coin. La façon dont cet employé réagira en dira long sur son caractère. Je continue à lire dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Luc. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Les petites choses sont les possessions terrestres et les grandes, les richesses spirituelles. Celui qui n'utilise pas les premières pour la gloire de Dieu saurait gérer les secondes. Par contre, ceux qui auront été fidèles dans leur gestion des biens de ce monde recevront en partage et selon leur degré de fidélité des richesses spirituelles durables et éternelles. Je continue. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres, en effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Le contraste est absolu. Détester ou aimer, dévoué ou méprisant. L'amour de l'un m'éloigne de l'autre. En leur qualité de maître, Dieu et l'argent s'excluent mutuellement. Martin Luther a dit « L'argent est du bien » n'est pas un péché, mais ne le laisse pas devenir ton maître qui te serve et que tu sois son maître. Je continue. En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent se moquaient de Jésus. Mais il leur dit, « Vous êtes des gens qui veulent se faire passer pour justes aux yeux de tout le monde. » Mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en aurore. Les religieux, qui sont bien dodus, n'ont pas l'intention d'abandonner la poursuite des richesses, surtout qu'ils croient qu'elles sont la preuve de la bénédiction de Dieu. Ils se moquent donc de Jésus et de ses disciples qui sont de pauvres êtres. Jésus va répondre un peu plus loin à leur sarcasme avec la parole du mauvais riche. Je continue. L'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il serait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'à un trait de lettre de la loi. Celui qui divorce d'avec sa femme et se marie commet un adultère, et celui qui épouse une femme divorcée d'avec son mari commet un adultère. L'ancienne alliance s'est achevée avec Jean-Baptiste, le dernier prophète. Lui et Jésus ont ouvert le royaume de Dieu, mais pour y entrer, il faut se faire violence à cause des conditions draconiennes émises par le Seigneur. Et à cause des obstacles constitués par le système religieux mis en place par les pharisiens. Suivre Jésus n'est pas pour les pieds tendres. Sous le régime du Nouveau Testament, les ordonnances cérémonielles et les lois civiles et judiciaires de la loi de Moïse sont abolies. Cependant, les préceptes moraux sont toujours en vigueur. Et les pharisiens sont particulièrement coupables à ce niveau. C'est ainsi qu'ils permettent le divorce pour n'importe quelle excuse. Jésus réagit contre cette perversion. Nous arrivons maintenant à la parabole du riche et de Lazare. La troisième d'une trilogie. Elle enseigne qu'être riche ne signifie pas être juste. Elle est dirigée contre les pharisiens et les sadducéens qui, eux, ne croient pas à la résurrection. Dans la première parabole, le fils prodigue gaspille l'argent de son père. Dans la seconde, un intendant malhonnête gaspille l'argent de son maître. Et dans la troisième, l'homme riche gaspille son propre argent en le dépensant sur lui-même. Cette troisième parabole comprend quatre scènes, plus le dialogue en six scènes. Le mauvais riche est le sujet des scènes 1 et 4, et Lazare des scènes 2 et 3. Quand Jésus met en scène deux personnages principaux, l'un est noble et l'autre ignoble. C'est ici la seule fois que Jésus utilise un nom propre. Je commence à lire. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits de pourpre et de fin lin. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Lazare est indigent, malade, et il souffre. Son nom signifie « Dieu est le secours », ce qui sous-entend que ce pauvre gueux est un pieux israélite qui cherche son secours en l'Éternel. Il faut dire que quand on est dans un tel délabrement, le seul espoir qui reste est d'invoquer Dieu. Lazare est couché, jour après jour, devant l'entrée d'une somptueuse villa, et des serviteurs lui donnent probablement des restes à manger, mais en cachette, et donc pas suffisamment. Il ne lui est pas possible de se tenir debout, et ne peut que mendier. À première vue, Lazare est plutôt un homme que Dieu ne secourt pas. Pourtant, tous les matins, des membres anonymes, compatissants de la communauté, de sa famille ou des amis, le portent là, devant cette villa, et le ramènent le soir, où on ne sait pas. Les gens qui s'occupent de Lazare font tout leur possible, mais la seule personne vraiment capable de lui venir en aide est le mauvais riche ou l'un de ses invités. Alors, en le plaçant à la vue de tous, les amis anonymes espèrent que quelqu'un aura pitié ou un peu de compassion envers Lazare et lui donnera quelque chose à manger. Lazare est très mal en point et il a faim, mais il souffre surtout de se sentir abandonné et méprisé. Il voit bien des gens bien repus aller et venir et qui font comme s'ils n'existaient pas. Du côté du riche, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sa robe est en pourpre et ses sous-vêtements en fin lin, deux tissus raffinés et coûteux. À côté de sa garde-robe, cet homme est un Crésus avant l'heure, qui fait la fête tous les jours, ce qui veut dire qu'il ne respecte pas le sabbat. Ses serviteurs n'ont jamais un jour de repos, et donc, chaque semaine, il enfreint les 10 commandements. Son style de vie excentrique et somptueux est plus important que la loi de Dieu. Cette injustice qu'il inflige à ses serviteurs ne lui importe pas du tout. Le texte établit donc un contraste saisissant entre les deux hommes. Vêtements de luxe, festin quotidien, villa clôturée pour le premier, misère, haillons, maladie, souffrance. Et partage de la nourriture jetée aux chiens errants pour le second. Ces deux hommes sont aux extrémités opposées de l'échelle sociale et financière. Cette histoire, qui concerne tout juste, va aussi nous donner quelques informations sur l'au-delà. Que se passe-t-il après la mort? Dans les années 70, est sorti un livre qui s'appelle « La vie après la vie, et dans lequel on lit des choses très intéressantes, mais qui ne correspondent pas à l'enseignement des textes sacrés. Il faut donc choisir. Je continue le texte. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Quand Lazare meurt, Jésus ne nie même pas qu'on l'a enterré. Il est sûr qu'il n'a pas eu droit à une cérémonie religieuse, ni à des funérailles, ni à un discours pompeux, ni à un enterrement de première classe. Les éboueurs ont simplement jeté son corps sur la géhenne, le charnier qui brûlait continuellement et qui se trouvait à l'extérieur de Jérusalem. Mais les anges se sont déplacés, l'ont emporté dans le sein d'Abraham et ont organisé une fête en son honneur. Quand le riche est mort, par contre, il a été enseveli avec tous les honneurs dus à son rang. L'homélie du rabbin a fait vibrer les vitraux de la synagogue. Il n'avait que des éloges pour cet homme dont la fortune prouvait qu'il jouissait des bénédictions de Dieu. Grossière erreur. Je continue. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut, très loin, Abraham et Lazare à côté de lui. Changement de scène. Nous sommes transportés dans l'au-delà. Lazare occupe maintenant une place d'honneur. Ces hommes sont tous deux dans le séol, le terme hébreu pour le séjour des morts, et qu'on a coutume d'appeler les enfers. Cet endroit a deux sections très différentes. Le sein d'Abraham, ou paradis, qui est un endroit paradisiaque, mais sans la présence de Dieu. Et l'enfer, proprement dit, qui est un lieu provisoire et l'antichambre de la seconde mort. Aujourd'hui, le sein d'Abraham n'existe plus, car l'apôtre Pierre écrit qu'après sa mort et avant sa résurrection, Jésus est descendu au Séol et a libéré ceux qui étaient dans la partie paradis pour les emmener avec lui dans le royaume des cieux. C'est le Seigneur qui leur a ouvert la porte, pour ainsi dire. Pour ceux qui rejettent Jésus, la mort physique est suivie de la mort spirituelle, aussi appelée la seconde mort ou mort éternelle. C'est une séparation d'avec Dieu à tout jamais. Ceux qui ont accepté Jésus vivront dans la gloire pour l'éternité, dans la présence de Dieu. Je lis un passage. « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il est intéressant de remarquer que dans l'au-delà, le mauvais riche sait qui est Lazare et connaît son nom, ce qui veut dire qu'il savait qu'il était couché devant son portail, affamé et couvert de plaies. Va-t-il demander pardon pour son indifférence ou sa cruauté à son égard? Je continue le texte. Alors le riche s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi! « Envoie donc Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans la tourmente. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir, ni aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous, ici. De mauvais riches ne s'adressent pas à Lazare, parce qu'il ne parle pas au paria. Il apostrophe donc Abraham, son patriarche, et fait jouer sa carte raciale, car il est israélite circoncis, vrai, impur. Ça ne peut que marcher parce qu'au Moyen-Orient, la famille est le dernier de refuge sur lequel on peut toujours compter. Quand un membre est dans le besoin, il va voir le chef de clan qui, pour sauver l'honneur, est obligé d'intervenir. Après avoir rappelé le lien familial, le mauvais riche lance le cri habituel du mendiant. « Aie pitié de moi !» Quand Lazare souffrait, le mauvais riche était indifférent, et maintenant que lui souffre, il faut faire quelque chose. Au lieu de demander pardon à Lazare, il veut que celui-ci vienne lui rendre un service. C'est tout juste s'il n'a pas dit « Maintenant que Lazare va mieux et peut marcher, j'ai besoin de lui. » Le mauvais riche ne tient aucun compte que Lazare est l'hôte d'Abraham, et il est toujours aussi arrogant qu'il était de son vivant. Il n'arrive pas à se représenter un monde sans classe sociale et où il n'y a pas de sommet de l'échelle. Abraham reconnaît que le mauvais riche est un Israélite, mais il lui répond avec le cri habituel du prophète. « Souviens-toi que tu as reçu beaucoup. Et Lazare, que des malheurs. Et maintenant il est consolé, et toi tu souffres. » Ces quatre rappels correspondent aux quatre scènes de l'histoire qui précèdent les dialogues. Lazare n'est pas décrit comme guéri ou bien nourri, mais consolé, c'est-à-dire qu'on s'occupe de lui. Il n'a plus à endurer les sons joyeux des banquets qui produisent des ordures qu'il voudrait tellement manger, mais qui sont jetées aux chiens charognards. Dans l'au-delà, la mémoire est une cause de tourment pour les uns et une source de joie pour les autres. Le riche doit se souvenir que pendant la vie, il a reçu des biens qui venaient de Dieu et qu'il se les est appropriés pour lui-même. Il en a fait son idole, ce qui est la cause de son tourment. Lazare a eu les maux qu'il a supportés comme un pieux israélite. Ils ont été son épreuve et le riche n'a pas songé à les lui adoucir. Or maintenant, Lazare est consolé. La rétribution en bien ou en mal, est la conséquence rigoureuse de la vie de tout homme. Ce qu'il sème, il le moissonnera aussi, écrit l'apôtre Paul. Dans l'au-delà, nous assistons à un retournement de situation complet. Le riche est devenu mendiant, tandis que le miséreux est dans la félicité éternelle. Le premier n'est pas en enfer parce qu'il était fortuné, mais parce qu'il faisait fi de Dieu, ce qui est sous-entendu par son indifférence, voire son mépris vis-à-vis de ce gueux minable qui tentait de survivre devant sa porte, ayant Dieu pour seule espérance. Le riche est dans les flammes, qui sont l'image d'une souffrance morale. Les convoitises et les passions, jusque-là pleinement satisfaites, se changent en tourments dès que toute possibilité de satisfaction l'aurait ôté, tandis que le feu des regrets et des remords brûle dans la conscience. Le mur d'enceinte qui séparait Lazare de la table du riche est maintenant un gouffre infranchissable. Le portail aurait pu être franchi, mais pas l'abîme. Tragiquement, il est dorénavant trop tard pour cet homme de se repentir. Ceux qui se moquent de l'au-delà, qui disent « je verrai quand j'y serai » et qui ne veulent pas prendre le temps de s'intéresser à Jésus-Christ, commettent une erreur impardonnable aux conséquences éternelles. Je continue le texte. « Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. » Le mauvais riche prend une fois encore l'attitude du mendiant. Il est noble de sa part de penser à ses frères. Mais d'un autre côté, il se soucie de ceux qui appartiennent à la même classe sociale supérieure que lui. Reconnaître cette œuvre envers Lazare et lui demander pardon n'en lui vient toujours pas à l'idée. Sa vision du monde est intacte, structurée en classes, des serviteurs qui servent leur maître. Si Lazare ne peut pas être mon garçon de café, il pourrait au moins faire le coursier envers ses supérieurs comme mes saints frères. L'argument d'Abraham est que tous les frères du riche ont à leur disposition les écrits de Moïse et des prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Ils n'ont donc qu'à obéir à leurs directives. Au premier siècle, seulement entre 3 et 10% de la population de Palestine savait lire. Mais les Juifs pieux avaient écouté la lecture de la loi et des prophètes à la synagogue. Or, l'un des enseignements qui revient fréquemment est la compassion envers les pauvres. Mais le jour du sabbat, le mauvais riche était trop occupé à faire la fête, et ses frères, sans doute, aussi. C'est leur problème. Ils n'ont pas écouté la loi et lui obéir. Mais le mauvais riche n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Alors il insiste et tente même de corriger Abraham comme si c'était son serviteur. Il veut que Lazare retourne sur terre. Et tout ce que lui désire, ou est supposé lui apporter sur un plateau d'argent et sur le champ. Malgré sa situation et tout ce qu'il voit, aucune des attitudes arrogantes du mauvais riche n'a changé. Il n'y a donc aucune raison de penser que ses frères modifieront leurs croyances ou leur façon de vivre à la vue d'un ressuscité. Cela dit, il est logique de penser que si quelques morts revenaient après avoir fait un séjour en enfer, ils auraient de quoi raconter et de captiver leur audience. Ça, c'est sûr, en particulier dans une société qui a un besoin constant de divertissement. De plus, ces morts-vivants seraient mus d'un zèle fougueux. Ils auraient une pêche d'enfer, littéralement, et arpenteraient inlassablement tous les chemins de la création pour avertir tout homme qui doit se repentir et accepter Jésus comme sauveur ou être jeté dans un endroit effroyable. Alors, pourquoi Dieu n'envoie-t-il pas quelqu'un du séjour des morts pour rendre visite? Ça ferait les choux gras et la une de tous les journaux de France, de Navarre et d'ailleurs. Lisons la fin de la parabole. Mais Abraham répliqua, « S'il n'écoute ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Si les gens ne s'intéressent pas aux Écritures et à Jésus-Christ, un ressuscité les divertirait sans aucun doute pendant un temps, mais ça ne les convaincrait pas. Au bout d'un moment, le grand public se lasserait de ce mort-vivant. Selon l'évangile de Jean, après la résurrection d'un autre Lazare, les chefs religieux et les grands prêtres en exercice n'ont pas changé d'un poil. Au contraire, cette nouvelle les a confortés dans leur désir de mettre à mort Jésus. C'est bien de rechercher des preuves historiques qui soutiennent la foi, mais connaître Dieu et accepter Jésus comme sauveur échappe à toute investigation intellectuelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne la rejetez pas. Nous voici rendus au chapitre 17 de Luc, dans lequel Jésus se concentre sur la formation de ses disciples. Je commence à lire. Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait, pour les hommes, des occasions de péché, mais malheur à celui qui provoque la chute de quelqu'un. Mieux vaudrait pour lui être précipité dans le lac avec une pierre de meule attachée au cou, que de provoquer la chute de l'un de ses plus petits. Il y aura toujours des scandales. Triste réalité de la corruption du genre humain. Jésus commence par lancer un sévère avertissement à ceux qui le suivent. Il leur dit qu'ils ont des obligations envers les autres et qu'il faut bien prendre garde à ne pas éloigner quelqu'un de Dieu comme le font les pharisiens. Non seulement les pharisiens et les interprètes de la loi n'entrent pas dans le royaume, mais ils font tout pour détourner de la foi en Jésus les faibles, les humbles et les délaissés, ceux qui, comme des enfants, sont vulnérables, car ils font naturellement confiance aux autorités religieuses. La redoutable pensée de Jésus est qu'il vaut mieux subir une mort cruelle que d'occasionner la ruine d'une seule âme. Je continue. Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le et, s'il change d'attitude, pardonne-lui, et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » « Si vraiment vous avez la foi, leur répondit le Seigneur, mais aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Le deuxième enseignement donné aux disciples est qu'ils doivent se pardonner mutuellement leurs offenses, tout en réglant les différends qui les opposent. Le devoir du pardon n'a pas de limite, parce que l'amour n'en a pas. Le pouvoir d'exercer continuellement le pardon est une marque de fabrique du chrétien, qui fait partie de sa conduite normale. Mais les disciples se rendent compte qu'ils n'ont pas la foi suffisante pour pardonner toutes les offenses qu'on leur fait, d'où leur question, augmente notre foi. Jésus répond que ce qui nous paraît impossible, la plus petite foi l'accomplit, parce qu'elle nous met en communion avec Dieu et nous rend participants de sa puissance. Pour être capable de pardonner, il me faut la foi que Dieu s'occupe de mes affaires et qu'il va lui-même régler mes contentieux. Ce n'est qu'à cette condition que je peux oublier l'offense et vaquer à mes occupations. L'esprit libre est dégagé.